c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
Les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous, Gatry, nous acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Bonjour et bienvenue, bon matin à cette nouvelle édition de En bas à gauche. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM, il est 9h du matin. Aujourd'hui, avec l'équipe d'En bas à gauche, un spécial sur les événements de sur la révolution populaire qui a lieu en ce moment en Tunisie. Alors, la première partie de l'émission est dédiée à un reportage sur les manifestations de solidarité qui ont eu lieu samedi dernier avec le peuple tunisien, ainsi qu'une entrevue portant sur la censure exercée sur Internet par le régime tunisien. En deuxième partie de l'émission, on donne la parole à Suzanne Loisel, présidente de Entraide Missionnaire, qui fait partie d'une coalition d'organismes canadiens qui, la semaine dernière, ont fait une sortie médiatique pour demander au gouvernement canadien de rendre des comptes quant à son aide, sa supposée aide humanitaire envoyée en Haïti. Alors, comme je vous disais, la première partie de l'émission est dédiée aux événements de la Tunisie. Alors, rappelons que la semaine dernière, nous avions diffusé un reportage sur les manifestations de solidarité qui avaient eu lieu la semaine dernière. Et nous avions promis aujourd'hui de diffuser seulement l'entrevue sur la censure sur Internet par le régime de Ben Ali. Mais quelques mots avant, alors il faut dire que les déroulements... Il y a eu plusieurs déroulements depuis la semaine dernière. Le mouvement populaire qu'on a vu éclore, surtout depuis décembre dernier en Tunisie, a commencé à donner des fruits. Alors, nous saluons avec tout le peuple tunisien le départ de l'autocrate Zine Albidine Ben Ali, qui a pris la fuite vendredi dernier après 23 ans au pouvoir. On parle en Tunisie d'une véritable révolution populaire qui, dans les médias occidentaux, a pris le nom de révolution de jasmin. C'est un événement qui est plus que marqueur pour la région, puisqu'il s'agirait du premier dictateur du monde arabe à céder le pouvoir sous la pression de la rue. Alors, pour faire peut-être une petite histoire courte, on peut situer les débuts de cette révolution 2 ans ou presque 3 ans auparavant, c'est-à-dire en 2008, surtout dans le sud du pays, alors que des mobilisations sans précédent avaient lieu dans cette région minière qui compte près de 50% de chômeurs. Suite aux manifestations qui avaient eu lieu dans le sud du pays, des dizaines de militants syndicalistes avaient alors été emprisonnés par le régime de Ben Ali, ce qui avait déjà commencé à créer de très fortes frustrations et de plus amples manifestations. Puis, en 2009, pour sortir le pays de la crise économique qui avait lieu au niveau mondial et qui, en Tunisie, a fait drastiquement chuter les revenus liés à l'importante industrie touristique. Tout ce qu'avait trouvé le président à proposer, c'était d'offrir de généreuses exonérations fiscales aux entreprises privées proches du régime. Et dans la même foulée, Ben Ali avait annoncé la privatisation des télécommunications et d'une très large partie du secteur bancaire. Bien sûr, le tout au profit de sa famille, qui est également un des clans économiques les plus importants en Tunisie. Donc, dans ce contexte, on a également, à cause de la crise économique, la hausse des matières premières et donc des denrées de première nécessité, dont les céréales. Donc, il y a une répercussion directe sur la vie des Tunisiens et Tunisiennes. Et c'est un peu ce qui a terminé d'aiguiser la grogne populaire qui a éclaté, comme on le sait, en décembre dernier, dans de nombreuses manifestations monstres et qui maintenant rejoint l'ensemble du pays. Peut-être une petite nuance sémantique. La presse occidentale parle de révolution de jasmin. Alors, on voit ça dans tous les journaux au Québec, mais c'est intéressant de voir que les médias arabes, eux, refusent pour leur part d'emprunter ce terme de révolution de jasmin qui était antérieurement utilisé par le dictateur lui-même, c'est-à-dire c'est le terme qu'avait utilisé Ben Ali lors de son coup d'État en 87. Alors, il avait utilisé le terme de révolution de jasmin parce que le jasmin se réfère à une révolution tranquille, c'est une image, c'est le jasmin est blanc, c'est l'image de la paix. Donc, c'était pour dire que c'était un coup d'État sans effusion de violence. Alors, ça s'applique très mal au contexte actuel, selon les médias arabes, puisque, par exemple, selon les sources syndicales, depuis le 17 décembre dernier, on a plus de 80 personnes qui ont trouvé la mort suite à la violente répression exercée par le régime de Ben Ali contre les manifestations sociales. Donc, oui, il y a révolution, il y a mouvement populaire, mais de là à dire que c'est une révolution de jasmin, tranquille, sans effusion de violence, il y aurait des nuances à faire. Et puis, bon, on parle de révolution, mais c'est loin d'être assuré, puisque depuis la fuite de Ben Ali le vendredi dernier, après 23 ans au pouvoir, c'est son premier ministre, Mohamed Ghannouchi, qui a depuis pris les rênes du pouvoir en main, et cela en invoquant l'article 56 de la Constitution. Donc, qu'est-ce que dit l'article 56? Selon les opposants au régime, le fait d'invoquer cet article constitutionnel-là a pour but d'assurer l'immunité totale pour l'ancien président, et risque donc d'instaurer une complète impunité pour les crimes commis lors de ces 23 ans de dictature. Un autre exemple, c'est que depuis le départ de Ben Ali, l'armée a décrété l'état d'urgence et a imposé un couvre-feu qui rend donc illégal tout attroupement de plus de 3 personnes et qui donne aux forces de l'ordre le droit de tirer sur toute personne contrevenant au couvre-feu et à l'interdiction de manifester. Bon, il faut dire que selon la chaîne Al Jazeera, le couvre-feu est très, très peu respecté. Les manifestations continuent en Tunisie malgré le durcissement de l'armée et malgré le départ du président. Donc, la révolution populaire est encore en marche, puis on va devoir suivre ce qui se passe dans les prochains jours. Et donc, pour souligner cet événement historique, le départ du président Ben Ali, des rassemblements ont eu lieu un peu partout dans le monde samedi dernier, qui était journée de solidarité internationale avec le peuple tunisien. À Montréal, ce sont plus d'un millier de personnes qui ont célébré le départ de Ben Ali, qui ont également rendu hommage aux victimes de la répression durant ces dernières semaines de manifestations populaires. Il y a également eu une manifestation à Québec où quelques 200 personnes se sont également rassemblées. Et encore une fois, ce sont nos collègues de l'émission de radio communautaire Voix de fait qui étaient présents rue Saint-Jean samedi dernier pour réaliser un court reportage et donner la parole aux organisateurs de cette manifestation de solidarité. C'est donc ce qu'on vous invite à écouter en première partie.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
On écoute Hakim Merdassi, un des animateurs de la manifestation.
La Tunisie fut le premier pays arabe qui a aboli l'esclavagisme en 1848. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a eu une constitution en 1961. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a aboli le polygamie en 1956. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a proposé une solution au problème israélo-palestinien. Et maintenant, aujourd'hui, la Tunisie est le premier pays arabe qui dit « Dégage, c'est un dictateur !»
Jugez Ben Ali pour les crimes qu'il a commis.
Jugez
On écoute Tayem Moala, journaliste à Québec et opposant de longue date.
Bienvenue à la toute première révolution du 21e siècle. Une révolution qui a été faite par le peuple. Elle n'a pas été imposée par l'extérieur. Le peuple tunisien n'a attendu personne pour le libérer. Il n'a pas attendu de chars américains. Il n'aura pas Hamid Karzai qui va venir sur des chars américains pour amener la démocratie. Le peuple tunisien a compris que la liberté ne se donnait pas. La liberté se prend. Les yeux du monde entier sont rivés aujourd'hui sur un petit pays de 165 000 km² de 10 millions d'habitants qui a su faire sa révolution. Nous avons une responsabilité énorme envers le monde entier et particulièrement envers le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, les yeux de nos frères algériens, égyptiens, j'ai vu une pancarte ici, sont rivés sur nous pour qu'on protège cette révolution démocratique. Ces dernières années, vous nous avez peut-être battus au soccer, mais là, on est en train probablement de vous battre dans la liberté. Je ne veux pas jouer mon baveux parce que c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite de vous débarrasser de vos dictateurs aussi et de faire votre libération. Aujourd'hui, on vit des moments historiques en Tunisie. On appelle à la justice. On ne veut pas de vengeance. La vengeance, tout le chaos qui est actuellement en train d'être fait.
Oui, oui.
Le chaos en Tunisie est en ce moment même fait par les hordes, les gens qui sont les gens des les derniers fidèles, le dernier cercle de fidèles à Ben Ali, qui ont tout intérêt à mettre du grabuge, qui ont tout intérêt à montrer qu'une sorte de révolution démocratique ne fonctionnerait pas, parce que ça a l'air qu'on ne serait pas mûr pour ça. J'ai une petite nouvelle pour vous autres, on est plus que mûr pour ça. En ces moments historiques pour mon peuple, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour des milliers, des dizaines de milliers d'exilés partout dans le monde. C'est la situation de certains d'entre vous ici que je reconnais. Des gens qui ont été privés de leur passeport pendant de très longues années. Des gens qui ont subi des brimades. Les gens dont les proches ont subi des brimades en Tunisie parce que ces gens-là, pendant les années de plomb, ont osé dire non à Ben Ali. Des gens qui n'ont pas pu enterrer leurs parents en Tunisie parce qu'ils étaient interdits de rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, le message est, il faut rester très vigilant. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un début aujourd'hui. C'est le début de la lutte.
Je passe la parole maintenant à Mohamed Ali qui va parler au nom du collectif de Québec pour l'aide sociale en Tunisie. C'est le collectif qui s'est créé il y a quelques semaines lors des événements tragiques qui ont eu lieu.
Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe en Tunisie. La Tunisie qui est son peuple a créé un événement historique qui s'est jamais vu dans aucun pays au monde. Ce peuple-là, aujourd'hui, s'est levé pour dire non, on en a assez de vivre sous la dictature. C'est ça le message principal. Le problème, c'est que nous, comme Tunisiens, comme démocrates, comme gens libres, n'avons jamais eu l'occasion de nous exprimer librement en Tunisie. Les institutions, l'État, tous ces appareils ont été monopolisés pendant 55 ans par le régime, par le parti au pouvoir actuellement. Aujourd'hui, pour ne pas trop prolonger mon discours, ce que je veux, c'est qu'on soit solidaire de notre peuple et qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant. Aujourd'hui, la démocratie n'a pas gagné encore. Il faut se le dire. Aujourd'hui, le dictateur est parti, mais la dictature est encore en place. La dictature, c'est un parti au pouvoir qui a ses ramifications, qui s'est instauré, qui est maintenant détenteur d'un réseau. On a vu ces derniers jours les signes de la contre-révolution, si on peut l'appeler de cette façon. Il y a des agitateurs, un groupe organisé, et ce qu'on a entendu comme information donne à l'idée que c'est un groupe qui fait partie de la garde présidentielle. Un certain Seriati a été arrêté aujourd'hui et c'est un général proche de Ben Ali et de sa gang. C'est lui qui a organisé toute cette mise en scène de chaotique, l'attaque aux établissements publics
des centres de commerciaux, des maisons sont attaquées. Donc, on a essayé de créer le chaos pour justifier, peut-être, c'est une, peut-être une vengeance ou une stratégie pour faire revenir la dictature en Tunisie. Peut-être pas avec la même face, mais continuer avec cette dictature. Je suis fier d'être Tunisien aujourd'hui. Je suis fier de le dire haut et fort que je suis opposant à ce régime. Je l'ai toujours été. Et puis aujourd'hui, je me sens encore plus heureux d'avoir accompli quelque chose pour mon pays.
Dictature finie.
On va attendre Sébastien Bouchard, porte-parole régionale de Québec solidaire, donc ce parti qui fut le premier parti québécois à appuyer dès la fin décembre la révolution franco-tunisienne.
Je vous invite à réfléchir sur les causes profondes. Si on veut une nouvelle Tunisie, il faut réfléchir aux causes profondes des problèmes actuels, des causes économiques et des causes politiques. Et le Québec et le Canada est en lien avec ces problèmes. Est en lien avec ces problèmes parce qu'économiquement, il y a du chômage et de la pauvreté. Et le chômage en Tunisie est en partie lié aux politiques du FMI, aux politiques de la Banque mondiale, aux politiques de coupure, de privatisation qui sont imposées par les financiers internationaux et appuyées par des gouvernements comme le gouvernement canadien. Les problèmes politiques, c'est-à-dire la dictature actuelle en Tunisie, comme au Maroc, comme en Algérie, comme en Égypte, comme en Jordanie, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays, il y a des dictatures pro-occidentales, c'est-à-dire que le gouvernement des États-Unis, le gouvernement canadien, le gouvernement de l'Europe, donc le gouvernement canadien ici a appuyé la dictature et le gouvernement canadien doit prendre position. Aucun appui à aucune dictature, que ce soit dans les pays arabes ou partout dans le monde. Non, le Canada n'appuiera plus la dictature.
تبلاد. هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم في المتراك تاكا تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف برطان الحاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف في الاحلاش تغرف انسان ما تحاش فيه زعما ترضى هالبنتك عارف كلامي بكر عين عارف مدام بو ما ترضاش الشر لصغارك الور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفراس رانا عايشين كل كلاب.
Alors, vous écoutiez en dernière partie une chanson de El Général, un des icônes rap de la Tunisie, que j'ai dû couper malheureusement parce que je suis à court de temps. Alors, juste mentionner qu'El Général, c'est un Tunisien, un rappeur très connu là-bas, qui est présent dans les rues de Tunis depuis le début des manifestations et qui accompagne de ses chansons les manifestations populaires. Alors, on enchaîne tout de suite avec une entrevue qui a été réalisée par Blandine avec Antoine. Antoine, c'est un travailleur de la coopérative Kumbit, qui est une organisation à but non lucratif basée à Montréal et qui travaille les services Internet, les nouvelles technologies d'Internet dans une optique d'un engagement social, donc pour les organisations sociales du Québec. Antoine est en quelque sorte un cyberactiviste, c'est-à-dire qu'il est très actif sur les médias Internet au niveau international et il s'en sert pour faire des campagnes de solidarité. Il a, dans la dernière année, étudié beaucoup la question de la censure sur Internet, ce qui l'a amené à publier sur son blog personnel un article portant sur les mécanismes de la censure, particulièrement en Tunisie. Un article qui, pour prouver ses dires, et n'est pas accessible depuis la Tunisie. Donc, son article sur la censure a fait l'objet de censure en Tunisie et c'est pourquoi on l'a invité à l'émission pour nous en parler. Alors, je vous laisse avec une entrevue avec Antoine de Kumbit.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié un article il y a environ une semaine en réponse à un article que j'avais déjà écrit il y a, je pense, 3 ans qui documentait le fonctionnement de la censure en Tunisie. C'est que j'avais un ami qui était allé au sommet mondial de société de l'information en Tunisie qui est, à ce moment-là, l'association était un peu bizarre. Les gens se demandaient pourquoi le SMSI se passait en Tunisie qui était connu pour censurer l'Internet. Et moi, ça avait piqué ma curiosité. Je me suis organisé avec mon ami pour pouvoir me connecter sur sa machine à distance et inspecter le pare-feu là-bas. Donc, comment il fonctionnait, j'ai détaillé très au niveau, c'est assez technique là, comme article, mais c'était utilisé par d'autres Wikipédia ou d'autres endroits sur Internet pour expliquer comment la censure fonctionnait, comment ça fonctionnait. Bon, en bref, c'est une compagnie qui s'appelle NetApp qui fournit des logiciels et des machines au gouvernement tunisien qui lui permet de censurer, finalement, de contrôler tout le contenu. On appelle ça un proxy, là, c'est une machine par quoi toutes les requêtes passent. Là. Donc, même s'il y a plusieurs fournisseurs de services en Tunisie, ils passent toutes par le même fournisseur d'État qui peut contrôler tout le contenu. Donc, ça, c'était il y a 3 ans, j'ai écrit cet article-là. Il y a pas très longtemps, peut-être, je pense que ça fait 1 an à peu près, l'article a été censuré, et on m'a averti sur le blog que l'article était censuré en Tunisie. Puis c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai été mis au courant de ça. Et puis, ben, vu que, au début, j'expliquais pas comment contourner les mécanismes de censure, je faisais simplement expliquer comment ça fonctionnait. Et puis c'est après que ça a été censuré, cet article-là, que je me suis dit, ben, c'est stupide, là, les gens ils comprennent même pas comment la censure fonctionne. C'était quelque chose que même les Tunisiens pouvaient avoir accès, en fait, cette information-là, juste par leur propre expérience. Donc j'ai décidé, à ce moment-là, de récemment écrire un article qui expliquait comment la censure fonctionnait, puis comment la contourner. Puis par le fait même aussi, je mentionnais un peu les événements qui se passaient en Tunisie, puis en Algérie, présentement, finalement. Donc, c'est ça. En bref, le système de censure, il fonctionne que, le gouvernement blacklist, finalement, il met sur une liste noire certaines adresses, comme le site de Reporters sans frontières, plusieurs blogs, ils ont censuré Wikileaks, ils ont coupé complètement l'accès à Facebook pendant un certain temps, ça c'est revenu. Mais c'est revenu d'une façon assez particulière, en fait, ils ont coupé l'accès sécurisé à Facebook et à Gmail et à Yahoo, donc c'est plus possible de se connecter sur ces sites-là de façon sécurisée en Tunisie. Et qu'est-ce que ça a permis d'intéressant pour eux, c'est de ils ont amorcé l'accueil des noms d'utilisateurs et des mots de passe des utilisateurs sur Gmail et Facebook. Donc, il a installé une espèce de petit, je me souviens comment on appelle ça en français, mais un snitch, là, une espèce de petit bout de code sur toutes les pages de login de Google qui, finalement, révèle, c'est un peu compliqué de comment ça fonctionne au niveau technique, mais finalement, ça révèle au gouvernement les noms d'utilisateurs et mots de passe des Tunisiens qui utilisent Facebook ou Gmail. Et donc, il y a un phénomène assez particulier qui est apparu, c'est que soudainement, il y a des utilisateurs en Tunisie qui se sont ramassés qu'ils pouvaient plus utiliser Facebook, ils pouvaient plus utiliser Gmail, leur compte était carrément détruit ou tous leurs contacts étaient effacés ou tous leurs courriels étaient effacés ou ils pouvaient plus se connecter parce que le mot de passe avait été changé. Parce que le gouvernement avait finalement saboté leur compte. En fait, on imagine que c'est le gouvernement, mais on a eu la preuve récemment quand il y a des gens qui ont publié les détails techniques de comment ce système-là fonctionnait, en fait. Et puis, selon mon analyse, moi, là, ça me semble plausible, vu la façon que le pare-feu fonctionne, que ce soit le gouvernement tunisien qui a mis ce genre de trucs pour sniffer, là, parce que c'est quelque chose qui est quand même à grande échelle puis qui n'est pas simple à faire pour un attaquant aléatoire.
Alors, on s'étendra pas, mais en 2 mots quand même, on va retourner sur le contexte tunisien, mais il faut absolument que tu nous dises en 1 minute pour nous donner envie d'aller lire comment qu'on le contourne.
Ben, c'est très simple en fait. Pour les gens qui veulent contourner les mécanismes de censure ou avoir une forme d'anonymat sur Internet, on recommande l'utilisation du logiciel Tor, qui est T-O-R, là, si vous voulez aller voir, c'est torproject.org sur Internet. C'est un petit logiciel qu'on installe sur son ordinateur qui permet de contourner les mécanismes de censure en se connectant pas directement au serveur où est-ce qu'on veut passer, mais par d'autres serveurs qui roulent Tor. Et finalement, on sait jamais trop où est-ce que les gens qui inspectent le trafic savent jamais trop où est-ce que vous allez ou d'où vous venez. Et puis ça permet de l'anonymat, mais ça permet aussi de contourner les mécanismes de censure. Et finalement, dans des pays comme la Tunisie, où on a eu les mêmes problèmes en Iran, le simple fait d'utiliser Tor, des fois, peut être un problème légal. Les gens se font arrêter. Il y a des activistes web qui ont été des blogueurs, des différents activistes qui ont été été emprisonnés récemment en Tunisie aussi. On ne sait pas pourquoi. Ils sont juste disparus finalement. Mais c'est ça. Il y a certainement un problème légal. C'est possible de détecter que vous utilisez Tor, mais ça reste que vous êtes anonyme sur Internet, puis ça permet de contourner les mécanismes de censure.
Puis, donc justement, t'en parlais un petit peu des blogueurs arrêtés pour avoir dénoncé la censure, ce genre de choses. Est-ce que tu peux t'étendre un petit peu plus sur le contexte politique en ce moment qu'on voit apparaître dans les journaux de façon assez superficielle, émeute, manifestation, mais sans un contexte plus global?
En fait, c'est assez particulier qu'est-ce qui se passe en Tunisie parce que ça fait 40 ans qu'il n'y a jamais eu de manifestation plus ou moins dans ce pays-là. C'est un pays qui est de l'extérieur. Va très bien, c'est une démocratie, le gouvernement a été élu, toutes ces belles choses qu'on nous dit tout le temps à la radio. Dans la réalité, c'est une population qui est soumise à la loi de la censure. Le gouvernement, lui, dit officiellement qu'il respecte la liberté d'expression, la liberté d'association et toutes ces choses-là, mais en fait, dans tout le Maghreb et l'Afrique du Nord, ces temps-ci, il y a une grosse crise, puis en fait, partout dans le monde présentement, il y a une crise au niveau du prix de la nourriture, puis le prix des denrées. Et ça crée des crise sociale assez grave. C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe en Tunisie. Et les gens, bon, sont au chômage, ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et puis, ça a culminé en Tunisie par l'immolation par le feu d'un marchand de fruits qui n'avait pas le permis pour son marché. Donc, il a été brutalement saisi de son matériel, puis à bout de ressources, il ne pouvait plus faire vivre sa famille, il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il s'est suicidé devant la préfecture de police, plus ou moins, de façon assez flagrante, ce qui a provoqué finalement une genre de catharsis. Les gens sont sortis dans la rue et là, ça fait à peu près 2 ou 3 semaines qu'il y a manifestation sur manifestation. Là, on parle de 14 morts selon les autorités publiques et 20 morts selon les associations civiles, des gens qui ont été tirés par balles par la police. Le gouvernement prétend que c'est sous légitime défense, là, qu'il s'agit de, bon, qu'il y a des terroristes qui ont attaqué le gouvernement. Là, présentement, l'armée commence à sortir dans les rues aussi. C'est une situation assez explosive parce que finalement, le gouvernement dit que c'est des terroristes, mais en fait, quand on regarde les vidéos, quand on parle avec les gens qui sont là-bas, c'est des gens normaux, c'est des personnes, des pères de famille, des étudiants. Il y a des avocats, en fait. Aujourd'hui, c'est une journée de grève générale en Tunisie. Les avocats sont tombés en grève. Les étudiants sont tombés en grève. C'est une révolte plus ou moins généralisée qui se passe dans le pays. Le gouvernement a fermé les écoles à partir de demain jusqu'à nouvel ordre. Et puis donc c'est une situation qui est comme très très dramatique, très explosive. Et puis là, la communauté internationale commence à se mobiliser. C'est intéressant parce qu'il y a un silence relatif, assez impressionnant de la part de la France, par exemple, qui est très proche du gouvernement Ben Ali. Sarkozy et le président tunisien sont des proches amis. Il y a rien qui a été dit de la part de la France depuis 2 semaines, ça commence à parler. Les Américains ont dit, ah oui, la censure, c'est pas correct, vous savez, tout ça. Mais sinon, ça a pris beaucoup de temps avant que les choses commencent à bouger. Et puis, il a fallu justement qu'il y ait des morts dans les rues pour que les gens commencent à essayer de rappeler la Tunisie à l'ordre. Et puis, bon, on sait pas trop comment ça va se terminer, en fait, cette histoire-là. Il y a des gens qui ont fait des parallèles avec la fin de Ceausescu, je pense que c'était en Roumanie, Ceausescu, où est-ce qu'il y a eu des grandes manifestations comme ça contre le pouvoir qui était en place juste avant sa mort, finalement, littéralement.
Puis pour avoir... Lorsqu'une
personne qui fait partie de votre vie boit trop, un rien peut provoquer de vives disputes. Les conflits ou la peur des conflits deviennent un élément régulier de notre vie. Vous pouvez trouver de l'aide dans les groupes familiaux à l'anon locaux, là où les amis et les familles des buveurs problèmes s'offrent du soutien mutuel et de la compréhension. Pour plus d'informations, visitez alanon.org. Pour trouver une réunion des groupes familiaux à l'anon dans votre localité, composez le 1-888-4 à l'anon.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Écoute.
écoutez The Digital Life Show, une émission en langue anglaise qui traite de l'univers du numérique et de l'impact de ces technologies sur notre vie de tous les jours.
Les samedis à 14h30 sur Radio Centreville 102.3 FM.
Salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, secousse, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM.
En matière de musique du monde, Radio Centreville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
En tout cas, c'est pas ça qui fera que ça changera pour notre cas. Même si loin, notre chemin ne cessera point. Tu le sais bien, je ne suis pas comme ça. Moi, je te lâcherai pas. Et toi non plus, j'espère pas. Des amitiés comme ça, ça ne s'oublie pas. T'es d'accord avec moi? Loin des yeux, mais jamais loin du cœur. Tu sais, il y en a tellement à l'intérieur. Crois-moi, je m'en pars.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM avec l'émission En bas à gauche. Alors, on poursuit cette deuxième partie de l'émission en parlant d'Haïti avec Suzanne Loisel, présidente directrice en fait de l'Entraide missionnaire, un organisme de solidarité internationale basé à Montréal, un organisme qui fait partie de la coalition qui, la semaine dernière, a fait une sortie médiatique pour demander au gouvernement canadien de rendre des comptes quant à sa politique étrangère pour Haïti et surtout quant aux montants qui ont été versés ou qui n'ont pas été versés malgré les promesses faites par le gouvernement canadien de venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Alors, on laisse la parole à Suzanne Loisel.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Tout d'abord, peut-être un petit mot pour nous présenter Entraide missionnaire et la concertation pour Haïti.
D'accord. Bien, l'Entraide missionnaire, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale d'éducation à la solidarité internationale. C'est comme une forme de coopérative des communautés qui sont engagées dans la solidarité à travers le monde, dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et l'Entraide missionnaire fait partie de la concertation pour Haïti depuis ses débuts en 94. Donc, avec d'autres organismes comme des organismes de droits humains comme Amnesty International, Centrale syndicale, d'autres organismes de coopération comme CISO, SUCO, Développement et Paix, etc. Alors, une quinzaine d'organisations, plus aussi des membres individuels. Alors, voilà pour la concertation. Alors, c'est dans ce cadre-là, avec la concertation pour Haïti, que nous avons émis un communiqué de presse. Bon, c'était à l'occasion, évidemment, de l'anniversaire, le triste anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Et comme organisation, on s'interroge sur l'engagement du gouvernement canadien en Haïti, qui a fait beaucoup de promesses depuis le 12 janvier 2010, mais on se rend compte au début de 2011 que le Canada n'est pas à la hauteur de ses promesses. Par exemple, le Canada s'était engagé à la conférence de New York un engagement de 400 millions de dollars pour venir en aide en fait aux victimes du séisme. Et après une étude assez serrée là, des promesses du gouvernement canadien, de son engagement, etc., dans différentes conférences internationales, dont celle de New York, finalement, il n'y avait pas livré la marchandise. Et on est arrivé au triste constat que c'est moins du tiers de l'aide promise qui a été déversée concrètement. Alors, évidemment, le Canada n'est pas très performant à ce niveau-là. Et puis, il faut savoir que cette aide-là, en fait, ce 400 millions-là est réparti de façon... Il y a déjà 30 et quelques millions engagés pour l'allègement de la dette par rapport à Haïti, et un autre 30-quelques millions, en fait, pour soutenir les organismes multilatéraux, comme les organismes de l'ONU, la FAU, l'OMS, etc. Alors, ce qui va directement sur le terrain transite par des fonds gérés par la communauté internationale, et très peu, je parle de l'aide publique canadienne. Il faut faire la différence avec l'aide humanitaire. Là, il y a 550 millions qui a été décaissé quand même là, dans la mouvance du séisme à travers des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc. Dans le volet humanitaire, il y a 150 millions qui a été décaissé, mais on parle de l'aide à la reconstruction. Parce que l'aide humanitaire, dans le fond, c'est une aide humanitaire d'urgence et qui devrait, au bout de 3 mois, passer à un autre stade. Mais on n'a pas franchi ce stade-là encore. Et c'est ça qu'on a critiqué, en fait, fortement. Puis ce qui est plus compliqué encore, c'est qu'on a de la difficulté à avoir des réponses claires du gouvernement canadien. Quand on a fait cette recherche sur l'aide canadienne en Haïti, beaucoup de communications ont été faites. On ne retourne pas les messages, on ne répond pas à nos questions. Et maintenant, on ne peut communiquer que par courrier électronique. Par ailleurs, il y a des gens de l'ACDI qui ont confirmé les chiffres qu'on a avancés pendant la conférence de presse. Mais aussi, ce qui est encore plus difficile, c'est que le gouvernement canadien, en plus de ne pas parler sur, je dirais, les projets qu'ils soutiennent en termes de reconstruction, etc., il n'est pas très transparent dans sa façon de gérer les fonds. Par exemple, tout ce qui a été ramassé à partir des dons des Canadiens, qui est quand même un fonds de 220 millions, c'est-à-dire qu'on a ramassé, attendez, je pense que c'est ça, 220 millions, le gouvernement n'est pas du tout transparent pour nous dire comment il a utilisé cet argent. Pour apprendre quelque part, en faisant toutes sortes de gymnastiques, de dire, bon, qu'il y a une partie qui a été affectée à tel projet. Ou comme par exemple, dès le lendemain de notre conférence de presse, Mme Oda tout de suite après la conférence de presse, et beaucoup de journalistes ont communiqué avec l'ACDI, avec les affaires étrangères, pour dire, écoutez, cette coalition, la concertation pour Haïti, annonce des choses, vérifie des chiffres, voilà. Ils n'ont pas contredit nos chiffres, mais ils nous ont dit pas de commentaires. Et quelques heures après, la ministre Oda convoquait une conférence de presse pour annoncer des choses. Bon, j'ai pas eu le temps de tout analyser dans les détails. On n'a pas émis de communiqué la concertation après l'annonce de Mme Oda au lendemain de notre conférence. Mais on se rend compte qu'il y a certains projets, en regardant là, à vue d'œil, ce sont des projets qui avaient déjà été annoncés dans un engagement quinquennal de 2006-2011 qui ne concerne pas du tout l'argent à la reconstruction, les 400 millions dont on parle, qui ont été annoncés à la conférence de New York.
Puis si je comprends bien, il y a aussi une critique sur les enjeux structurels de ce financement-là. Et effectivement, il y a plusieurs façons de financer. L'aide canadienne a déjà, dans d'autres contextes, notamment été critiquée sur le fait qu'à l'occasion, il pouvait s'agir de financement juste pour faire appel à des compagnies canadiennes ou des choses comme ça. Est-ce que c'est ce genre de situation-là qu'on observe dans le cas d'Haïti aussi?
Aussi, on s'est rendu compte, par exemple, que il y aurait tellement de choses à dire, mais pour le point que vous soulevez, il y a un volet que le gouvernement canadien, en fait le gouvernement Harper, il faut le nommer clairement, où actuellement il y a un virage dans la politique étrangère canadienne, et y compris dans l'aide canadienne. Et avant, on appuyait beaucoup, par exemple, les organisations de la société civile, des groupes de droits humains, l'appui à des organisations de femmes, etc. Et maintenant, ce qui prend le pas, c'est les projets qui sont orientés vers la justice et la sécurité. Et là, on a découvert qu'il y a beaucoup de montants qui sont affectés non pas à des groupes de la société civile, groupes de femmes, groupes de droits humains, groupes d'alphabétisation, coopératives agricoles, etc., mais pour le soutien à des institutions de sécurité, construction d'une prison, surveillance des frontières, appui à la MINUSTA, etc. Et, à partir de la question que vous posez, à des firmes privées. Par exemple, on a découvert qu'il y a une firme albertaine qui a eu des contrats importants dans la reconstruction. Et cette firme qui s'appelle ATCO, on a découvert que des membres de son conseil d'administration sont curieusement des membres du Parti conservateur de l'Ouest canadien. Alors là, on se rend compte qu'il commence à avoir des canaux vis-à-vis les entreprises privées et donc des entreprises qui sont proches du gouvernement en place. Et ça avait déjà été dénoncé, ça avait déjà sorti dans les journaux, mais on l'a repris aussi dans le contexte de la conférence de presse. Aussi, le gouvernement canadien, faut-il le dire, a fait une rencontre avec les entreprises privées en septembre dernier. Une rencontre où les gens de la société civile, les organismes de coopération internationale, les syndicats, tout ce monde-là, on a été écartés de cette rencontre. C'était uniquement des gens de l'entreprise privée du Québec et du Canada. Par exemple, SNC-Lavalin, etc. On pourrait Hydro-Québec, on pourrait en nommer plusieurs. Donc, il y a de plus en plus un scénario où on fait appel à l'entreprise privée, non pas à des entreprises étatiques, sauf peut-être Hydro-Québec, qui est encore une entreprise de l'État, pour la reconstruction. Donc, c'est vrai au niveau de l'électricité, c'est vrai au niveau de la construction, c'est vrai au niveau des projets d'ingénierie. Bon, alors jusqu'où ça va aller, c'est quand même l'argent du public canadien. Et à ce niveau-là, le gouvernement Harper doit être transparent et nous dire à qui il donne les contrats, pour quel type de projet, dans quelle région d'Haïti, et ça c'est via telle compagnie.
Puis peut-être une question en guise de conclusion. On a observé dans les dernières années, presque maintenant, on pourrait dire, des coupures importantes de financement à des organismes de coopération internationale au niveau canadien, mais même à des groupes québécois, par rapport à leur position critique à l'égard du gouvernement ou à leur désalignement, je dirais, de la politique internationale canadienne. Est-ce qu'il y a des craintes de répercussions? Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé dans ces prises de position-là, surtout sur un sujet aussi sensible que Haïti et la politique canadienne?
C'est-à-dire que tous les organismes qui ont participé à la recherche sur l'aide canadienne, à la préparation du document de plaidoyer qu'on a rendu public, le communiqué de presse, ce sont tous des organismes très au courant des coupures actuelles du gouvernement Harper pour les organismes de coopération internationale dans le domaine de la culture, etc. Il n'y a pas juste le domaine de la coopération internationale. Mais on sait qu'actuellement, dans la politique étrangère canadienne, le développement prend moins de place que la défense. C'est un virage important de la politique étrangère. Donc, les ONG sont pris dans ce processus de coupure. Il y a pas mal plus d'argent qui va au projet militaire, à soutenir des interventions militaires. Et dans le cas d'Haïti, l'envoi de membres de la GRC, Service correctionnel du Canada, appui à la MINUSTA, que l'aide via les ONG. Mais il faut savoir que les coupures par rapport aux ONG, ça remonte à beaucoup plus loin. Hein. Déjà, en 1994, le gouvernement libéral de l'époque avait coupé tous les organismes d'éducation à la solidarité internationale. Les groupes d'éducation, pas ceux qui envoient des coopérants sur le terrain, qui ont des projets à l'étranger, ceux qui font de l'éducation ici, coupés à 100% du jour au lendemain. Et on a fait partie de ces coupures-là, nous, en 1994. Ça ne nous a pas empêchés de parler, mais c'est sûr que c'est le prix des fois de parler, mais les gens qui ont pris la parole la semaine dernière sont très au courant de ce rouleau compresseur du gouvernement Harper. Mais ce qui était peut-être l'enjeu le plus important, c'est la solidarité avec le peuple haïtien qui vit un moment extrêmement difficile. Avant le séisme, c'était extrêmement difficile, mais depuis le tremblement de terre de janvier, ensuite l'ouragan Thomas, des inondations incroyables, l'épidémie du choléra, puis là, l'arrivée de Duvalier en toute impunité qui franchit les frontières comme quelqu'un qui n'a aucun compte à rendre à l'histoire de toutes les exactions qu'il y a eu en Haïti, ben moi, je pense qu'il va falloir non pas penser aux coupures qu'on pourrait avoir, mais de faire en sorte que ce peuple ne soit pas un peuple exclu. plus de l'histoire pendant. Ça fait déjà trop longtemps.
Bien, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Alors, merci d'avoir été avec nous. C'était une entrevue avec Suzanne Loisel de l'Entraide missionnaire. Est-ce qu'il y a un site web où on peut avoir de l'information sur vos campagnes et vos activités?
La concertation pour Haïti n'a pas de site, mais vous pouvez aller, bon oui, sur le site de notre organisme, www.web/emi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Vous
au revoir.
Aussi.
Peuple haïtien, nous 6 millions. Sous chaque 100 000, il y a un monde qui bien. Ça fait 6 000 qui gagne l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut le comme ça? Pour nous une réponse là, nous c'est le roi. Pas quoi la Bible a écrit ça? Depuis l'Ancien Testament, esclaves toujours gommés contre roi. Yolité pour yo casser chaîne. Yo te gommé contre pharaon. Nous mêmes paysans haïtiens qui pas qu'on lisse ça yo dit. On récolte diri c'est pas dé ni c'est pas toi mais le papiti. Six mille mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo jouen chaque fois et il est nous voulons changer ça. Pas vle dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours vle ça changer. L'an mal est mié, forme sorti là. Pas ta fia koudia, ni candidat, ka pou et m'la. La vie pour changer a dieu, pour moi les miens, c'est pour me revendiquer. Sous chaque 5000 intellectuels, 4900 comme au kiel, un bantioul qui s'en règle sans fiel. Y oublier si pep c'est celle fausse, fait messe pour mérite entrer, vine prend pays, merci mouché. Contrebande plus la charité, c'est pour ça que sans figuier c'est vrai, sans l'honnêteté, sans la dignité, nous trouvons ça bien malhéré. Pour un bon monde qui cultive, qui a l'école qui qu'on a baissé, colonne vertébrale yo plié, ak yon koui côté yo passé. Six mille mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo jouen chaque fois et il est nous voulons changer ça. Pas vle dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours vle ça changer. L'an mal est mié, faut me sortir là. Pas ta fia koudia, ni candidat, ka pou et m'la. La vie pour changer à Dieu, pour moi les miens, c'est pour me revendiquer. La rivière mauvaise c'est malais, ils n'y ont pas sa fête là en mer. Pour nous ça son bagaille qui clair. Pour les hommes ça c'est belle parole, si tout l'ol voulait jouer un gros rôle, ça bon chanter que au signol. L'a toujours parlé de l'union, quand elle t'a envie président, descendre quand on l'en belle machine, baille l'argent pour des coups de vaccine, vieux frère pas prendre la manigance, c'est ça y aurait la trompance, quitter vicier en Port-au-Prince, toujours vendre tête yo pour rien. C'est mille mouno qui gagne l'argent. Malgré tout le vieux amour, yo joint chaque fois et il est nous voulons changer ça. Pas vle dit, un yé a dit, devant yon pepo, les jours vle ça changer. L'an mal est mié, faut me sortir là. Pas ta fia koudia, ni candidat, ka pou et m'la. La vie pour changer à Dieu, pour moi les miens, c'est pour me revendiquer. L'an mal est mieux, et faut me sortir là. Pas ta fille à coup d'yaye, ni candidat capou était là la vie pour changer à dieu pour aller mieux c'est pour me revendiquer.
Alors c'était Mano de Charlemagne avec la chanson L'âne mal aimé sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Il est 10h10. Vous écoutez l'émission En bas à gauche. Alors peut-être quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas Mano Charlemagne. C'est un personnage important en Haïti, ou du moins qu'il l'a été. Un chanteur, mais également un militant politique, un opposant et organisateur communautaire sous le régime de Duvalier, qui donc, bien sûr, comme tous les militants politiques sous le régime de Duvalier, a connu la prison, a dû se mettre en clandestinité pendant plusieurs années jusqu'à recevoir des menaces de mort et devoir subir un exil forcé de son pays pendant la dictature de Duvalier. Il est retourné en Haïti avec Aristide. C'est un partisan de la Valas qui a remporté la mairie de Port-au-Prince. Il a donc été maire de Port-au-Prince de 1995 à 1999. Et les Haïtiens, ou du moins la presse haïtienne et les mouvements sociaux font un bilan un peu mitigé de son administration en tant que maire de Port-au-Prince. Donc, il reste une icône pour le peuple haïtien, plus comme artiste et chanteur que comme politicien. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour notre reportage sur Haïti. Pour conclure l'émission, je vous invite à écouter l'anti-hebdo. C'est donc l'horaire... une proposition d'activité à faire cette semaine pour les gens qui ont décidé de tirer leur télévision par la fenêtre et de plutôt chercher des activités sociales. Alors donc, pour l'anti-hebdo cette semaine, alors ce soir, mardi 18 janvier, de 7h30, ça commence à 7h30, à la librairie Pauline, sur la rue Masson, il y a une ciné-conférence, c'est-à-dire la projection du film Un trou dans le temps, qui parle des droits des détenus. Alors ça a lieu à la librairie Pauline, 2653 rue Masson. Il y aura la projection du film Un trou dans le temps et une discussion avec Laurent Champagne, qui est spécialiste en réinsertion sociale, et Catherine Proulx sera présente, c'est-à-dire la réalisatrice du film Un trou dans le temps. Donc c'est ce soir à 7h30. Demain, mercredi 19 janvier, à 6h30, sur le même thème des prisons, un atelier présenté par le Kersplebevid Publishing et le collectif Certain's Day. C'est un atelier qui porte sur le travail de solidarité avec les prisonniers politiques en Amérique du Nord. Donc, ce sera une discussion portant sur les prisonniers politiques, également les prisonniers de guerre venant des mouvements révolutionnaires des années 60 à nos jours. On abordera différents thèmes, dont la relation entre ces prisonniers politiques et prisonniers de guerre et les luttes actuelles au Canada et aux États-Unis. Une discussion également portant sur la définition de qui est un prisonnier politique de nos jours et également un bilan du travail de solidarité qui est réalisé au Canada et aux États-Unis avec les prisonniers politiques. Donc, c'est une invitation demain 6h30. Ça aura lieu au Cooperg Concordia, donc 1500 de Maisonneuve Ouest à 6h30. Jeudi 20 janvier, la Ligue des droits et libertés vous invite à son lancement, le bulletin de son nouveau bulletin sur le profilage social dans l'espace public. C'est un bulletin, en fait, spécial qui a pour but de poursuivre la démarche d'analyse et de réflexion qui a été entreprise lors de la tenue du colloque « Le profilage discriminatoire dans l'espace public » qui était organisé par la Ligue des droits et libertés en collaboration avec le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIN, en juin dernier. Donc, la Ligue vous convie au 5 à 7 de lancement de son bulletin. Profilage social dans l'espace public, ça sera au bar populaire, donc jeudi 20 janvier, un 5 à 7 au bar populaire, 6584 Saint-Laurent. Vendredi 21 janvier, en matinée, une conférence de presse pour une reconstruction responsable, inclusive et démocratique d'Haïti. C'est organisé par le Comité de solidarité Montréal-Haïti, un groupe formé après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, pour dont l'objectif est de soutenir les groupes communautaires haïtiens travaillant pour une reconstruction plus inclusive, responsable et démocratique du pays. C'est donc une conférence de presse avec deux experts haïtiens dans ce domaine. D'une part, Mario Joseph, qui est considéré, selon le New York Times, comme l'avocat des droits humains le plus respecté en Haïti. Il est cofondateur du Bureau des avocats internationaux, le BAI, la principale organisation pour les droits humains opérant actuellement en Haïti. Alors, lors de cette conférence de presse, Joseph dressera un portrait de la situation des droits humains dans les camps abritant des personnes déplacées suite au séisme. Mentionnons que Mario Joseph a fait beaucoup de travail depuis janvier 2010, c'est-à-dire depuis le séisme, pour défendre les survivants du tremblement de terre contre les évictions forcées, tout en faisant valoir les droits des femmes vivant dans ces camps. Joseph Mario va également aborder le sujet des élections de novembre 2010. Également présente à cette conférence de presse, Réa Doll, éducatrice et organisatrice communautaire très active. Réa Doll a été saluée, toujours selon le New York Times, pour son travail exceptionnel de soutien suite au tremblement de terre de janvier 2010. Doll est la directrice de SOPUDEP, une organisation communautaire de Port-au-Prince qui comprend une école élémentaire et secondaire pour plus de 400 élèves, un programme de microcrédit pour les femmes et des cours d'alphabétisation pour les adultes. Elle abordera les questions des conséquences du tremblement de terre sur l'éducation en Haïti. C'est donc une invitation du Comité de solidarité Montréal-Haïti pour le vendredi 21 janvier, une conférence de presse qui aura lieu à 10h du matin, donc de 10 à 11h30 au Centre Saint-Pierre, salle 115. Donc, Centre Saint-Pierre qui est situé au 1212 rue Panet. Toujours le vendredi suivant, à 20h, c'est le cabaret anarchiste, soirée bénéfice pour l'Anarchist Writer's Block. C'est une soirée micro ouverte avec poésie, performance, musique, bière, etc. Vous êtes tous invités à amener vos textes. Les profits iront directement à financer la première anthologie de fiction anarchiste. Donc, un événement culturel et politique vendredi prochain à 8h. Ça aura lieu au DIRA. Donc, la bibliothèque anarchiste, DIRA pour documentation, information, références et archives. Le DIRA est situé au 2033 boulevard Saint-Laurent, au troisième étage. Enfin, le samedi 22 janvier, si vous avez de l'énergie à dépenser, il y a une soirée, un party de danse bénéfice qui s'intitule « Parole aux souliers » et qui est organisée par le Fonds de défense légale pour les arrêtés du G20. Donc, on vous rappelle que le Fonds de défense légale pour les arrêtés du G20 a été fondé par la CLAC, dont la convergence des luttes anticapitalistes, suite aux manifestations contre le G20 en juin dernier à Toronto. Le comité a pour but de garantir que les fonds soient répartis de façon à ce que toute personne du Québec faisant face à des accusations criminelles reliées au G20 à Toronto ait accès à une défense légale. Donc, une partie des fonds de la soirée sera versée au Fonds de défense légale pour les arrêtés du G20. Également, participant à cette soirée, la coalition Justice pour Lévis. Lévis, c'est un homme qui a été abattu par la police de l'Ontario en juin 2009 et la coalition de justice pour Lévis Schaeffer a comme mandat de conscientiser au sujet de la brutalité policière et des enjeux de santé mentale ainsi qu'au support des familles vivant des situations particulières à cet égard. Donc, une partie des fonds ira également à la coalition de justice pour Lévis Schaeffer ainsi que encore le dira la bibliothèque anarchiste qui participe à l'organisation de ce party de danse bénéfice qui aura lieu ce samedi à 10h.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles,
mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Adoramique!
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants ? Non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme !
Pour vos vacances au juste prix, 1-855-MINI-PRIX ou 1-855-646-4774. Une agence de voyage d'ici vers tous les pays. 1-855-MINI-PRIX. Service sans souci, toujours au juste prix. 1-855-MINI-PRIX ou 1-855-646-4774. Détenteur d'un permis du Québec. Voyage, voyage.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être. Radio Centre-Ville vous sert un savoureux cocktail musical. Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.